Ouvrir la parole de Dieu dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Et nous allons lire quelques versets dans le chapitre 5. Nous voulons voir ce matin le lion qui est un agneau. Apocalypse, chapitre 5. Et je donne lecture au premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Et c'est ici la parole de Dieu. Alors avec tremblement, nous venons à l'Apocalypse après une série pratiquement exhaustive qui nous a été faite il y a quelques années. Mais quand même, c'est un livre qui est dans la parole de Dieu, dans la révélation de Dieu. Et nous allons regarder ce passage. Alors, il y a quelques points généraux à souligner et à ressouligner. Et c'est ce que je veux faire en guise d'introduction. Et le premier point que je veux souligner, c'est un dévoilement. Le premier mot du livre, Apocalypse, c'est-à-dire la révélation, signifie un dévoilement. Voilà quelque chose qui était caché ou quelque chose qui était recouvert, qui est maintenant dévoilé et ouvert à tous les regards de ceux qui veulent bien voir. C'est un peu comme telle marque de véhicule qui veut lancer un nouveau modèle, alors on a le modèle qui est exposé mais qui est caché sous un tissu, une couverture. Et puis voilà le moment de la révélation de la chose, et on enlève, bien entendu, ce qui le recouvrait, et voilà, c'est dévoilé. C'est exactement ce que nous avons ici. L'Apocalypse, c'est un dévoilement. Et nous lisons, au tout début de ce livre, c'est la révélation, c'est le dévoilement de Jésus-Christ. Le but majeur et le but central de tout ce livre, comme celui de la Bible, n'est-ce pas? C'est le dévoilement de Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ. Cela veut dire, en conséquence, que si mon intérêt principal en lisant ou en étudiant ce livre, ainsi que la parole de Dieu dans son entier, si mon but c'est de faire un schéma eschatologique, de voir tous les détails de comment va se dérouler la fin, ou de me focaliser sur ces détails, alors je suis en train de creuser au mauvais endroit. Je suis en train de perdre mon temps. Tout, dans ce livre en particulier, vise à dévoiler, à révéler Jésus-Christ. Si bien que tout ce qui est à connaître de lui est clair. Alors cela peut sembler bizarre de dire cela, parce que l'Apocalypse est réputé être un livre difficile, compliqué. Mais ça n'est pas la réalité. Simplement que souvent, on utilise la mauvaise clé pour l'ouvrir. Donc, c'est un dévoilement. Deuxièmement, c'est une apocalypse. Alors, c'est le premier mot. Et ce premier mot, dans l'original, est une indication technique que Jean donne à ses lecteurs. Il aurait pu utiliser d'autres mots, mais il utilise ce mot-là pour leur montrer quelque chose. Il leur dit, en fait, ce qu'il va écrire suit un certain style. C'est comme un poète qui va publier un recueil de poèmes. Alors, il va indiquer que c'est de la poésie. Et les lecteurs vont prendre ce livre et ils ne s'attendent pas à lire de la prose. Il y a des règles qui gouvernent la poésie, qui changent selon les cultures d'ailleurs. Et voilà, c'est de la poésie. On s'attend, par exemple, à voir des versets qui riment. Il y a des couplets, il y a un certain nombre de pieds dans le verset, et ainsi de suite. C'est de la poésie. Si quelqu'un écrit en prose, ou si quelqu'un écrit un roman, ou si quelqu'un écrit un essai, ils vont écrire, tous ces gens-là, d'une manière différente. Et quand Jean dit « j'écris une apocalypse », un dévoilement, alors en fait il dit, voilà, je vais écrire dans un certain style. Et il dit, je vais écrire à l'aide de symboles. C'est tout à fait cela. Je vais écrire à l'aide de symboles. C'est ainsi que nous ne prenons pas les symboles de manière littérale. C'est comme si on s'étonnait de voir un poème dont chaque ligne s'arrête avant la fin de la ligne. On dit, mais c'est ridicule, c'est une poésie. N'est-ce pas? Ou si la ligne est trop longue, alors on va à la ligne, mais on ne continue pas. Ce n'est pas de la prose. Ici, c'est des symboles, et on ne va pas prendre les symboles de manière littérale. C'est exactement ce que Jean nous dit ici. Par exemple, au chapitre 4, le chapitre précédent, nous lisons au sujet des quatre êtres vivants. Je vous réfère à l'étude qui a été donnée précédemment. Les quatre êtres vivants, et il est dit qu'ils avaient chacun six ailes et qu'ils étaient remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Alors là, on a des problèmes, n'est-ce pas? Je sais bien qu'il y a quelqu'un qui a interprété les six ailes en parlant d'hélicoptères. Mais bon, c'est trop compliqué pour moi. Mais quand on arrive aux yeux, tout autour et au-dedans, là, on a vraiment un problème. Non, mais c'est un symbole. Ce sont des symboles ici. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. Parce que là, on s'attendrait à autre chose. C'est simplement des symboles, des images qui symbolisent quelque chose, une réalité, et dont nous voulons comprendre le sens. Donc il faut interpréter cela. Donc un dévoilement, une apocalypse. Troisième lieu, c'est un encouragement. Et c'est un point qui est digne d'être souligné. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été donné par le Seigneur et écrit par Jean pour plonger les croyants dans la confusion ou pour en faire des experts dans les événements de la fin. Jean transmet le message de Dieu à une église, grand E, c'est-à-dire les églises, une église qui traverse la tribulation. C'est ce qu'il dit au premier chapitre, verset 9. Cette église traverse la tribulation, c'est-à-dire qu'elle endure une persécution. Et c'était, à l'époque, la première persécution d'une série d'une dizaine de persécutions. Donc il va falloir durer. Il va falloir tenir dans la durée, n'est-ce pas? Jean lui-même, probablement très âgé, probablement le dernier apôtre en vie, lui-même est exilé dans une île, dans l'île de Patmos. Il est séparé des autres. Et on peut imaginer ce vieil homme. Il est là et il se pose des questions. Il a du temps, n'est-ce pas? Il n'a rien à faire dans son île. Qu'est-ce que va devenir l'Église maintenant? Parce que Jean a connu l'avènement de certains grands hérétiques. Il a vu un mouvement qui est en train de prendre naissance et de prendre de la vitesse, qui va en fait menacer l'Église pendant au moins 3 siècles, et qui est en train de revenir actuellement d'ailleurs. Que va devenir l'Église? Voilà les questions qui se bousculent. Le royaume ne va-t-il pas disparaître? Vous comprenez cela? Et quand on prend de l'âge, on commence à se poser des questions ainsi, parce que les formes changent. Et le Seigneur lui-même vient montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc ce livre de l'Apocalypse est un encouragement. Ça permet à Jean de s'approcher de la fin de sa vie avec sérénité. Voilà le rôle de l'Apocalypse. Montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et c'est une bonne chose qu'on a eu ces lectures pendant la présidence de notre culte. Bientôt, c'est comme cet aujourd'hui biblique, n'est-ce pas? Aujourd'hui est le jour du salut, c'est-à-dire au moment où je l'entends. Et cela va arriver bientôt, c'est-à-dire quand Dieu décide de le faire. Mais c'est en route, c'est en route. Voici, il vient avec les nuées. Ça n'est pas une question d'heure, ça n'est pas une question de temps, c'est une assurance. Et c'est important pour nous de voir la chose. Ce Fils, celui qu'on attend, qui va revenir, il est l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga, bien entendu, on le sait, première et dernière lettre de l'alphabet grec. Mais ce que cela veut dire, c'est celui qui est au début de tout ce dessein d'alliance. Mais c'est aussi celui qui est à la fin. Et il n'y a pas de fin avant que celui-là revienne. Et c'est important, même important pour nous aujourd'hui. Nous avons aussi des interrogations, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas peur d'allumer la radio ou la télévision pour les nouvelles? On devrait avoir peur, n'est-ce pas? Si on regarde à la manière des hommes. Non, il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui était, qui est, qui était et qui vient. Et il est le Tout-Puissant. Donc, c'est un encouragement, c'était un encouragement hier pour Jean, pour l'Église, dans la persécution, et c'est un encouragement pour aujourd'hui. Et j'ai déjà donné cette anecdote, vous savez, cet agriculteur il y a des années, qui avait un jeune pasteur qui s'est lancé dans l'étude. Premier livre à étudier dans sa prédication, c'était l'Apocalypse, et ce pasteur se demandait comment ses ouailles recevaient la chose. Et il voit cet agriculteur qui est en train de travailler dans son champ et lui demande, mais c'est pas trop compliqué pour toi? Il dit, non, non, l'autre, c'est très facile ce livre. Il dit, bon, c'est vrai que vous rendez les choses un peu difficiles à saisir, à suivre. Donc là, on voit tout de suite que je ne parle pas de Philippe. Mais non, c'était un peu difficile, mais le livre lui-même est très facile. Alors il dit, mais c'est quoi la facilité du livre? Il dit, mais le sens du livre, le message du livre, c'est Christ va gagner. Et vous regardez l'Apocalypse d'un bout à l'autre, c'est exactement cela. Il va gagner. Jean était là, le dernier, tous les autres étaient partis, la plupart d'une manière brutale. Lui était encore là, il allait bientôt partir. Quelles sont les questions qui se bousculent? Non, Christ va gagner. Et nous sommes là, nous, après tous ces siècles et tout ça. Et on voit les attaques, peut-être d'une manière qui n'a pas de pareil aujourd'hui, contre l'Église, contre l'Évangile surtout. Où on utilise même les mots de l'Évangile pour vider l'Évangile de son contenu. C'est quelque chose de très. Qui plonge dans la douleur, n'est-ce pas? Le message, Christ va gagner. En fait, ce message est même plus précis que cela. Il a gagné. Il va gagner parce que c'est déjà fait. Donc, un dévoilement, une apocalypse, un encouragement, et puis quatrièmement, un ensemble. C'est un ensemble. C'est bon de dire cela parce que quand on regarde l'Apocalypse, on peut être tenté de penser que le livre est composé d'éléments décousus. C'est un petit peu difficile à s'y retrouver. En fait, le livre, comme tous les écrits de Jean, est minutieusement composé. Pour aujourd'hui, dans le cadre de notre message, nous allons simplement étudier quelques aspects, quelques vérités du chapitre 5. Mais nous devons nous rappeler que les trois premiers chapitres qui se concentrent avec l'Église sur terre ont pour centre celui qui marche au milieu des chandeliers. Si ma vision est accaparée par les Églises, à cause des lettres qui sont envoyées aux Églises, j'ai détourné les yeux du centre. Le centre, c'est celui qui marche au milieu des chandeliers. Au chapitre 4, nous voyons une porte ouverte dans le ciel et Jean se retrouve là à contempler la gloire souveraine du Dieu créateur. Et puis on arrive au chapitre 5, le point central se précise sur le Dieu rédempteur maintenant. Mais celui qui accomplit la rédemption est envoyé par le Dieu Tout-Puissant pour racheter cette Église qui traverse une tribulation sur la terre. Donc vous voyez comme tout se tient. Nous avons un ensemble, une grande unité, et c'est très important de garder cela à l'esprit. Le livre de l'Apocalypse est simple. Et en fait, son rôle, le but qu'il vise et le but qu'il remplit, c'est un but très simple. C'est encourager et fortifier, affermir le peuple de Dieu à travers les difficultés du monde. Hey, Jean, les églises de cette époque-là, avec des noms qui sont des fois difficiles à se rappeler, sont passées. Il y a des endroits où il n'y a même plus d'église maintenant, dans ceux qui sont cités, n'est-ce pas? Mais nous sommes ici. Comme il a été mentionné, des fois ce sont des grands rassemblements, des fois de tout petits rassemblements, des fois même il n'y a pas de rassemblement du tout. C'est simplement des individus. Tel est l'état de l'Église aujourd'hui. Eh bien, encourageons-nous par ces choses-là. Ce livre est écrit pour nous aussi. Pour nous aussi. Premier point que j'aimerais développer, très simple, un livre. C'est un livre. Tout le chapitre 4 a été consacré à une vision de la majesté absolue de Dieu le Père, ainsi qu'à sa toute-puissance totale. Il est celui qui règne. Et nous avons vu, il y a quelques semaines, ce règne, n'est-ce pas, dans les cieux, les vagues, la tempête qui a lieu sur terre ne le touche pas. D'une certaine manière, ne le secoue pas tout au moins. Il a créé toutes choses par son grand pouvoir. Et l'apôtre Jean dit, en parlant de l'agent que le Père a utilisé pour la création, qu'il n'y a rien qui est créé qui n'a pas été créé par lui. Il a créé toutes choses par son grand pouvoir et tout lui appartient, comme nous le voyons dans l'adoration universelle qui lui est rendue et que nous voyons au chapitre 4, mais aussi au chapitre 5. Une adoration universelle. Et le psalmiste nous dit que même la fureur du méchant glorifie Dieu. Au chapitre 5, la scène est la même, mais l'objectif zoome sur la main droite de celui qui est assis sur le trône. Donc il y a cette focalisation. Et Jean y voit un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de sept sceaux. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Un livre écrit en dedans et en dehors, déjà c'est bizarre, scellé de sept sceaux. Et donc dans la suite de l'Apocalypse, on voit que ce livre contient en fait toute l'histoire du monde. Tout y est. Toutes les petites choses qui ont occupé votre vie hier sont là. Ce qui va occuper votre vie demain, c'est là. Et c'est un rouleau. Les livres à l'époque étaient des rouleaux. C'est un rouleau et le texte occupe le recto et le verso. Et il n'y a pas de place pour ajouter quoi que ce soit. C'est écrit au-dedans et au-dehors. Il n'y a rien d'autre. Tout est là. Mais ce n'est pas simplement l'histoire du monde qui, aux yeux des incroyants, se déroule au hasard. On se lève le matin, on se demande qu'est-ce qu'on va entendre comme nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bouillonnement continuel, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement l'histoire comme ça. Non, tout est déjà écrit. C'est-à-dire, c'est simple, c'était le John Newton, c'est l'auteur de Grâce infinie, le cantique tellement connu, vous savez. Alors, le matin, il était très âgé, et lui aussi, tous les autres étaient, tous ses amis avaient disparu. Mais alors, il se levait le matin et il regardait, il lisait le journal. Il disait, je vais voir ce que mon père a fait hier. Alors, c'était très, très juste, n'est-ce pas? C'est cela. Tout est là. Tout est écrit. Et tout est écrit d'avance. Cela nous parle donc du dessein de Dieu. Il a déjà décrété, dès avant le commencement, ce qui doit arriver. Et cela doit arriver afin que s'accomplisse la volonté d'amener un peuple réconcilié dans sa présence. Rappelons-nous, toute la raison de l'histoire, toute la raison de la création, c'est l'alliance de grâce que Dieu a conçu de toute éternité. Il n'y a pas d'histoire en dehors de ça. Et ce dessein de grâce, c'est d'amener ce peuple réconcilié dans sa présence, un peuple qui est rebelle par nature. Ainsi, nous ne voyons pas simplement un livre d'histoire, mais quand nous regardons ce que Dieu fait, c'est la charte d'alliance du Dieu de grâce. Il règne. Et il règne non seulement pour son peuple dans une grâce libre et souveraine. C'est-à-dire que chaque élément de ce qu'il fait vise à faire grâce. Il va révéler le mal qui est dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Afin de manifester sa grâce en Jésus-Christ. Afin de manifester l'incapacité que l'homme dans laquelle l'homme est, de s'en sortir par soi-même. Et donc du besoin d'un Messie, du besoin d'un Sauveur. Et rappelons-nous ce que nous avons dit. L'Apocalypse est donné pour encourager le peuple de Dieu dans la tribulation. Nous passons par des moments difficiles, ça n'est pas le moment de nous détourner du livre de Dieu. C'est précisément le moment où il faut le mettre en effet. L'Apocalypse est donc donné pour encourager le peuple de Dieu dans la tribulation. Quoi de plus encourageant que de voir ce livre dans la main de celui qui est assis sur le trône? Vous vous demandez où va le monde? Où va votre vie? Pourquoi ceci ou cela se produit? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, n'est-ce pas? Ce qu'on dit souvent, ce qu'on ne devrait pas dire. La perplexité, l'anxiété vous menacent peut-être. Pensez au livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. C'est là l'encre qu'il faut, parce que ce livre présente quelqu'un. Donc, en premier lieu, nous avons un livre. En deuxième lieu, nous avons un défi et une désolation. Un défi et une désolation. Avec Jean, nous avons vu. On a vu celui qui est assis sur le trône. On a vu un livre dans sa main droite. Et maintenant, nous entendons. Parce que voilà un ange puissant qui survient. Et il crie d'une voix forte, c'est-à-dire que tout le monde l'entend. Et l'ange lance un défi. Et personne n'est exempt de ce défi. Quel est ce défi? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Voilà le défi. Alors, n'oublions pas que ce rouleau est scellé de 7 sceaux, c'est-à-dire qu'il est bien fermé. Ne peut pas l'ouvrir qui le veut, simplement. Ici, celui qui rompt les sceaux, celui qui peut ouvrir le livre, doit être digne, il nous a dit. Qui est digne pour ouvrir ce livre? C'est-à-dire, il doit être capable d'accomplir ce qui est écrit dans le livre. C'est-à-dire, le dessein de grâce du Dieu de l'Alliance. Celui qui va ouvrir le livre doit accomplir ce dessein. C'est-à-dire qu'il doit amener un peuple de rebelles réconciliés dans la présence du Dieu Saint. Il faut avoir la puissance pour ça, n'est-ce pas? Et voilà donc ce qui est indiqué par ce mot « digne ». La capacité d'ouvrir le livre. La capacité se compose de deux éléments. Premièrement, la force. Deuxièmement, la vertu. Il faut que celui qui ouvre le livre ait la puissance d'accomplir tout ce que contient le livre. Mais il faut aussi qu'il ait la qualité morale pour faire cela. Quand on a des candidats pour un poste important, on va les examiner, n'est-ce pas? On va faire des investigations, on va les pousser très loin pour voir s'ils ont la qualité morale pour remplir ce poste, pour remplir cette mission. Par exemple, un brigand aura peut-être la force de diriger le pays, parce que c'est un brigand. Donc il ose des choses. Mais peu de gens lui confieront le mandat de conduire le pays, parce que finalement, c'est un brigand. Donc il a la force, mais il n'a pas la qualité morale. Il ne peut pas le faire. Et c'est bien là le problème général, n'est-ce pas? Parce que nous lisons dans notre chapitre, dans notre passage, « Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable. » Il y a des gens qui peuvent avoir la force, mais au niveau moral, ils n'ont pas. Les anges, ceux qui n'ont pas chuté, ont la capacité, mais ils ne sont pas des hommes. Ils ne font pas partie de cette race. Et parmi les hommes, nous trouvons des gens qui se disent capables de faire de grandes choses. Mais avec le temps, nous voyons qu'ils ne sont pas arrivés là où ils voulaient. Et je me rappelle, il y a très longtemps, un candidat à une élection présidentielle dans un certain pays, en redemandant un second mandat, dit « Mais vous n'avez encore rien vu !» Mais ça faisait des années qu'il était au pouvoir, déjà. Et alors, si on n'avait rien vu, qu'est-ce qu'il avait fait? Les promesses n'avaient pas été tenues, n'est-ce pas? Ils ne sont pas arrivés là où ils voulaient. Et l'homme, en général, n'a pas la force en lui pour accomplir le dessein de Dieu. Parce que l'homme En fait, d'une part, il est face à un ennemi terrible. Et on se rappelle le cantique qui est attribué à Luther, qui nous dit, il n'a pas son pareil, en parlant de l'ennemi, il n'a pas son pareil sous le soleil. C'est-à-dire, aucun homme né de femme qui soit capable de tenir contre l'ennemi de l'être humain. Et cet ennemi connaît bien les défaillances. Parce que non seulement l'homme, il n'y a aucun homme qui a la force, mais il n'y a aucun homme qui a la qualité morale pour se tenir. Et l'ennemi le sait. En outre, ce n'est pas simplement Satan, le diable, qui se tient contre l'homme, mais contre lui se dresse la justice, la sainteté de Dieu, qui exige une perfection que nul homme ne possède. Si quelqu'un peut obéir à la volonté de Dieu parfaitement, alors il sera sauvé. Mais s'il a besoin d'être sauvé, c'est qu'il ne peut pas obtenir, il ne peut pas accomplir cette volonté parfaite. C'est impossible. Et donc, même Paul, qui était bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer pour nous-mêmes, même lui voyait que c'était impossible, parce que de lui ne pouvait rien venir de bon, nous dit-il. Et donc, le défi qui est lancé, qui est digne pour ouvrir le livre, rencontre une grande désolation. Et c'est ce que nous voyons, parce que nous lisons que Jean pleure beaucoup. Il se désole. Parce que le dessein de Dieu va-t-il donc échouer? Le ciel sera-t-il donc finalement vide? Et ce n'est pas simplement une idée, mais si personne ne peut ouvrir le livre, il n'y a personne qui sera sauvé. Ce qui dit quelque chose au sujet de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est là, à ce point de désolation, un point où tout homme doit arriver, c'est à ce point-là qu'un des anciens s'approche et lui dit « Ne pleure point ». Jean, qui se désole, ne pleure point. Vous, si vous vous désolez en voyant « Mais est-ce qu'on va trouver une solution ? Est-ce qu'il y a une solution pour ma vie ?» Ne pleure point. Pourquoi ? Y a-t-il une solution ? Et il y a une solution. Et c'est notre point suivant, que j'intitule « Le lion de la tribu de Juda ». C'est ce que l'ancien dit. Pourquoi Jean ne doit-il pas s'affliger ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est capable et digne de rompre les sceaux, d'ouvrir le livre et d'accomplir le contenu, c'est-à-dire de faire le dessein de Dieu. Qui est ce grand héros ? Qui est celui-là ? C'est, nous dit l'ancien, le lion de la tribu de Juda. Alors, ce n'est pas simplement une expression poétique qui nous fait dire « Ah, le lion de la tribu de Juda ». C'est bon à dire, n'est-ce pas ? De qui s'agit-il ? Et pour répondre à cela, il nous faut retourner en Genèse, vers la fin de la Genèse, Genèse chapitre 49, quand Jacob, avant de mourir, bénit prophétiquement ses fils. Et c'est là qu'on a la réponse. Juda, le fils de Jacob, Juda est celui qui est choisi pour porter la promesse. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons voir ce même Juda qui est choisi pour porter la promesse. Mais nous allons voir que toute la gloire est plutôt sur quelqu'un d'autre que sur Juda. Mais Juda n'est pas le premier-né de Jacob. Premier-né, c'est Ruben. Et Ruben, lui, n'est pas digne. Il n'est pas digne du tout. Pourquoi ? Parce qu'il a tenté de s'emparer, par ses propres moyens, de la promesse. Nous avons vu cela dans nos études de l'Alliance de la Grâce, dans la lignée d'Abraham, n'est-ce pas ? Il n'est pas digne. Donc, il a été écarté. Et c'est ce que nous verrons dans la bénédiction de Jacob. Et puis, Siméon, Lévi, les deux suivants, eux, ils sont écartés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont prétendu combattre pour l'Éternel dans l'épisode de Shechem, quand ils ont mis les hommes de la ville à mort. Vous vous rappelez, ils ont prétendu combattre pour l'Éternel, mais ils l'ont fait dans la chair. Donc là, on a la puissance, la force, mais pas la moralité. C'était même assez méprisable la manière dont ils ont fait. Alors, pourquoi Judas? Si on se souvient de ce que nous allons voir la semaine prochaine, l'aventure avec Tamar, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de dignité chez Judas. Pas du tout. C'est même lui qui a suggéré que, bon, ne mettons pas notre frère à mort, mais vendons-le. Ce n'est pas très digne, n'est-ce pas? Non, sa seule dignité réside dans le fait qu'il a été choisi par grâce, c'est-à-dire en dehors du mérite, simplement par la volonté de Dieu. Et de lui vient le Shiloh, comme le dit Jacob à ce moment-là, c'est-à-dire celui qui a été promis depuis le début. C'est en ça qu'est la dignité. Il est le choisi, le désigné, l'envoyé de Dieu. Il est le lion, car il a la dignité royale. Il est le rejeton de David, c'est-à-dire qu'il est celui à qui est promis un trône éternel, et dans la royauté était la puissance. Il est le roi davidique ultime, qui doit régner à toujours. Et David a bien compris que l'Éternel ne parlait pas de Salomon, mais de quelqu'un d'autre. Il a la puissance, car l'ancien dit à Jean, il a vaincu. Le lion de la tribu de Judas a vaincu, il est capable. Et c'est pourquoi Jean regarde, il se retourne et regarde, et nous regardons avec lui pour voir quel est ce héros unique, celui-là seul qui peut ouvrir le livre. Et c'est notre point suivant, n'est-ce pas? Un agneau qui est comme immolé. C'est la surprise. Nous nous tournons pour suivre le doigt de l'ancien, si on peut dire. Et que voyons-nous? Un lion? Il a annoncé le lion de la tribu de Juda. Voyons-nous un lion? Non. Nous voyons un agneau. Nous voyons un agneau. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelons-nous, nous sommes dans l'Apocalypse. C'est un genre apocalyptique. Nous voyons un agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va mettre de côté toute interprétation romantique. Vous savez, les petits agneaux qui sont jolis, purs, doux. C'est tellement fantastique. Ce n'est pas le propos ici. Immédiatement, nous voyons que Jean parle dans le cadre de l'Alliance. À nos yeux se présente, en fait, le sacrifice. Le sacrifice. C'est ce qui est précisé. Parce que ce n'est pas simplement un agneau que nous voyons, mais c'est un agneau immolé. Vous voyez, pour que quelqu'un puisse rompre les sceaux, pour qu'il puisse ouvrir le livre, qu'il puisse accomplir les termes de l'alliance qui sont couchés dans ce livre, il ne suffit pas d'avoir la puissance du lion. C'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Cela, à la rigueur, suffirait pour tenir Satan en échec. Nous avons vu le prince du royaume de Perse, n'est-ce pas, qui tient l'ennemi, qui lutte contre l'ennemi. Mais le gros problème avec la rébellion du péché, cette rébellion qui nous touche chacun de nous, n'est pas qu'il est contre Satan. Pas du tout. Mais c'est que c'est contre Dieu. Et Satan utilise cela. C'est donc un problème moral. Il faut réparer l'offense. Il faut payer le châtiment prononcé. La justice de Dieu doit être satisfaite. Sa sainteté doit être respectée. Son intégrité doit être sans tache. Il faut réparer. Et reprenant les termes de l'Alliance, Jean ici présente le sacrifice qui seul est digne de calmer la colère de Dieu et de satisfaire sa justice. C'est un agneau. Et dans l'Ancien Testament, voilà l'agneau, matin, soir, toute l'année. C'est un agneau car l'agneau n'a pas participé à la rébellion. C'est un agneau immolé car le sang doit être répandu. Dans le sang est la vie et il faut que la mort intervienne. Sinon, Dieu n'est pas respecté, son intégrité n'est pas respectée. Et enfin, Jean nous montre ici un agneau, dit-il, qui est comme immolé. Ce qui veut dire qu'il était mort, mais il n'est plus mort, car il vit de nouveau. Et cela veut dire que l'œuvre est accomplie et acceptée. Il est ressuscité pour notre justification. Non seulement il a fait l'œuvre, mais l'œuvre a réussi. C'est une œuvre de victoire. Et ici, nous avons celui qui est annoncé depuis le début. La postérité de la femme. Celui qui va écraser la tête de l'ennemi. C'est le Shiloh, c'est-à-dire celui qui est envoyé, qui est promis. Celui que Dieu a pourvu sur la montagne. C'est le rejeton d'Isaïe. C'est le fils de David. C'est le germe dont nous parle Zacharie. Ce germe, vous avez l'image de cette petite graine. On parlait tout à l'heure de semences, n'est-ce pas? Petite graine, vous ouvrez le sachet des graines là, et c'est tout rabougri, c'est tout sec. Est-ce que ça peut vivre? Parce que ça semble tout mort, n'est-ce pas? Mais dans la graine, il y a tout le potentiel de la vie. Et voilà, c'est ce que nous annonce Zacharie dans sa prophétie. Il est le germe, celui qui en lui a la vie. C'est celui que tout l'Ancien Testament annonce en promesse. Il a maintenant vaincu. Et c'est pour cela que Jean est un serviteur. C'est pour cela qu'il écrit à des églises, parce que l'agneau a vaincu. Et parce que sa victoire lui donne toute la capacité de dérouler l'histoire, de régner et d'accomplir le dessein de rédemption de Dieu. C'est lui et lui seul qui peut. Et tout le reste de l'Apocalypse et tout le reste de l'histoire découle de cela. Il a vaincu. Ainsi, mes amis, le salut de Dieu n'est pas simplement une solution qui nous permet d'échapper au tourment de l'enfer. Combien de gens sont prêts à accepter l'Évangile, et j'ai mis tout ça entre guillemets, n'est-ce pas, simplement pour éviter l'enfer. Parce que l'enfer n'existe pas, mais quand même, on le craint. Ce n'est pas simplement ce qui nous permet de ne plus ressentir notre culpabilité pour toutes les œuvres ténébreuses de notre chair, ce qui nous fait rougir de honte, n'est-ce pas? Non, le salut, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous protège de cela. C'est beaucoup plus. C'est l'explication de toute chose. Vous avez une question? La réponse se tient là. En quoi? La gloire du Fils et la gloire du Père. C'est la somme de toute chose. Pourquoi le mal existe-t-il? Grande question, n'est-ce pas? Les philosophes se sont fatigués là-dessus. De manière incompréhensible à la raison humaine, le mal existe pour la gloire de l'agneau. Il n'y a pas d'autre explication, tout au moins, qui soit disponible pour l'homme. Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan? Pourquoi l'a-t-il laissé chuter? Une autre question, n'est-ce pas, qu'on dresse souvent contre l'Évangile. Alors, je ne comprends pas, mais je sais que c'est pour la gloire de l'agneau. Pourquoi la tribulation? Pourquoi la persécution? Cette tribulation dans laquelle était l'Église à l'époque, ces persécutions qui se préparaient, qui allaient durer pendant longtemps, n'est-ce pas? Les douleurs de toutes et toutes sortes de choses comme ça. Pourquoi est-ce que la maladie me touche? Et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que il y a ces difficultés dans ma vie? Pourquoi ces choses existent-elles? C'était la grande question pour les contemporains de Jean. Et on a lu tout à l'heure dans la lettre aux Hébreux. Alors, là encore, voilà une section de l'Église qui était tentée d'abandonner. Pourquoi? Parce que ça durait et c'était pas bon. Et la lettre aux Hébreux est écrite pour montrer que non, il y a quelque chose de meilleur, n'est-ce pas? La gloire du Fils, la gloire du Père. Donc c'était la grande question des contemporains de Jean. C'est la grande question pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Et la réponse est toujours la même. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Fils. Revenons dans l'Ancien Testament. Voilà l'Éternel qui est dans les cieux et se présente devant lui les fils de Dieu, il est dit. On sait par cela que ce sont les êtres angéliques, bons et mauvais d'ailleurs. Et Satan est parmi eux. Et le défi qui est lancé à Satan, vous vous rappelez, n'est-ce pas? As-tu vu mon serviteur Job? Ah oui, il l'a vu. Et quel est le résultat? 37 chapitres, n'est-ce pas, de tribulation. Et la tribulation dans la situation, tribulation dans la famille, tribulation dans la santé, tribulation avec les amis, tribulation avec son propre cœur, n'est-ce pas? Mais quelle est la fin du livre de Job? Quel est le sens du livre de Job? La gloire de Dieu. Les quatre derniers chapitres, n'est-ce pas? Et c'est précisément ce que nous voyons dans tout le reste de ce chapitre 5 ici de l'Apocalypse. Au chapitre 4, on voit les êtres vivants, les anciens, se prosterner et adorer le Créateur. Au chapitre 5, quand l'agneau, comme immolé, prend le livre, et donc en prend possession, que voyons-nous? Les êtres vivants, les vieillards, les anciens, chantent la rédemption. Et puis, beaucoup d'anges, puis ensuite toutes les créatures, partout, adorent et chantent le nouveau cantique. C'est-à-dire les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et l'agneau prend sa place sur le trône, avec le Père, dans une gloire infinie. Toute la création adore, chante les louanges. Et enfin, c'est clair pour tous, le Père et l'agneau sont dans une gloire infinie. Alors, ami croyant, est-ce que tu vois l'agneau comme celui qui t'a racheté, celui qui est digne? Le vois-tu comme le maître de l'histoire? Oui, même souverain dans tes difficultés. Le problème avec nous, souvent, bon, peut-être vous alignerez sur mon exemple, peut-être pas, mais souvent, le problème, c'est que quand la difficulté survient, elle a tendance à voiler le regard. C'est intéressant. Quelqu'un qui passe par une maladie ou par un accident, quelque chose comme ça, tout d'un coup, sa vie se restreint, se rétrécit et tourne autour de tout cela. Jusqu'au point même d'aller à vous citer le nom et la composition des médicaments. Enfin, là, j'exagère un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. La difficulté a tendance à nous voiler le regard et surtout à nous le voiler à la réalité que l'agneau tient le livre dans sa main et il règne, il est glorieux, il est le maître de l'histoire. Alors, le défi nous est lancé, l'invitation nous est lancée de l'adorer dès maintenant, là où nous sommes, dans la tribulation, dans la persécution, dans la douleur, dans la maladie, dans la médiocrité de ma vie, qui peut me faire honteux, me plonger dans la honte et me faire... Dieu ne peut pas me regarder. Non. Comme si lui ne dirigeait pas ces choses. Non. Est-ce que ce n'est pas une motivation pour l'adorer dès maintenant. Parce que c'est lui qui vient avec les nuées pour chercher ceux qui subissent aujourd'hui la tribulation, ceux à qui, par lui, appartient le royaume et la persévérance en Jésus. Et tous ceux-là à qui Jean écrivait à cette époque-là sont dans la gloire aujourd'hui. Et beaucoup d'autres depuis, n'est-ce pas? Et bientôt, ce sera le cas de tous ceux que l'agneau a touchés et qui vivent aujourd'hui. Donc encourageons-nous avec cela, à regarder celui qui règne, celui autour de qui tout se centre. Même le dessein de Dieu se centre sur l'agneau. Car en lui, il a plu à Dieu de réconcilier toutes choses avec lui-même, par son sang. Le Seigneur nous donne la grâce de voir ces choses, de nous appuyer sur ces choses et de vivre la victoire du Fils. Amen.